Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
OK, il y a un nouveau sondage qui a été publié aujourd'hui dans le cadre des 20e édition, de la 20e édition des Journées de la persévérance scolaire. Et on voit certaines contradictions que les Québécois peuvent avoir face à l'instruction, face à l'école. 91% des gens sondés pensent qu'on devrait en faire plus, par exemple, pour la persévérance scolaire. Mais en même temps, seulement 63% des sondés ont répondu être d'accord avec l'affirmation suivante. La place d'un jeune est à l'école et son premier métier est d'être un élève. C'est un peu surprenant. On en parle avec André Maillé-Périard. Elle est présidente du Réseau québécois pour la réussite éducative du Québec. Madame Maillé-Périard, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
C'est un peu surprenant, cette contradiction dans les réponses des Québécois. 63% des répondants qui disent « Ouais, la place d'un jeune, c'est d'être à l'école. » Ça laisse beaucoup de gens qui trouvent que c'est pas la place des jeunes d'être à l'école.
Oui, c'est vraiment un résultat qui nous a étonnés. C'est la première fois qu'on posait cette question-là, parce que j'ai passé la dernière année à dire sur toutes les tribunes que le premier métier d'un jeune était d'être un élève.
Donc, il y a cette contradiction, mais comment on l'explique? Parce que l'école, c'est toujours vu comme une institution importante. Mais là, si je me fie à vos chiffres, on a à peu près quelque chose comme 37% des Québécois qui ne sont pas d'accord avec l'affirmation que la place d'un jeune est à l'école et que son premier métier, c'est d'être un élève. Comment on explique ça?
Ben effectivement. La première réflexion que je me suis faite, c'est « Oh mon Dieu, c'est beaucoup plus bas que ce à quoi je m'attendais. Mm-hmm. » Puis ensuite de ça, je me suis dit « Ah, est-ce que si on avait posé la question il y a 40 ans, est-ce que cette réponse-là aurait été vraiment beaucoup plus bas? » Je crois que oui. Puis j'espère que dans 20 ans, elle sera beaucoup plus haute. Maintenant, ça fait quand même écho à plusieurs choses qu'on a entendues là dans la dernière année. Là. C'est certain que le travail est très valorisé dans plusieurs milieux, ça on le sait déjà. Pour d'autres, l'école n'a pas été le milieu qu'ils ont préféré de leur existence. Donc, ça veut dire aussi que ben il y a encore beaucoup de travail à faire là, pour valoriser l'éducation au Québec.
Bien, il y a encore beaucoup de travail à faire, puis vous faisiez référence à il y a 40 ans en disant, bon, écoutez, les choses sont sûrement améliorées, Mme Maillé-Périard, mais il y a 40 ans, on sortait de la Révolution tranquille, on sortait d'une prise de conscience sur l'importance de l'école. Aujourd'hui, avec tout le discours sur l'importance de l'éducation, je vous avoue, ça me décourage un peu de mes concitoyens, ces réponses-là.
Moi aussi, j'ai été très étonnée parce que dans la société du savoir dans laquelle on est, avec toute l'informatisation puis l'intelligence artificielle, les compétences en littératie qui vont être nécessaires pour pas être capable d'évoluer sur le marché du travail là dans 10 ans, là, être capable d'évoluer sur le marché du travail dans 5 ans. Donc avec l'automatisation et tout ça, ça va pas demander moins de compétences à nos jeunes, ça va en demander encore plus puis de savoir lire encore mieux puis d'avoir être capable de calculer encore mieux. Donc oui, ça m'a vraiment étonnée, mais je ne peux me dire qu'on doit relever nos manches puis poursuivre le travail.
OK, 20e édition cette année des Journées de la persévérance scolaire. En termes de persévérance scolaire, c'est quoi le bulletin de nos jeunes aujourd'hui en 2024?
Ben le taux de diplomation s'est grandement amélioré quand même là depuis 20 ans. Mais en 2024, nos jeunes sortent quand même d'une pandémie, puis dans plusieurs régions, des grèves générales qui ont quand même grandement affecté le moral des troupes. Donc, en termes de persévérance scolaire, malheureusement, on s'attend à une petite hausse du décrochage scolaire dans les prochains mois, années. C'est bien triste, mais c'est un peu le contexte là, dans lequel on se retrouve actuellement. En même temps, ben, ce qui est encourageant, c'est de se dire que on est vraiment plus à même d'identifier les jeunes à risque de décrocher puis de le prévenir, ce décrochage-là aujourd'hui. Donc, on pense que l'effet va être beaucoup moins grand maintenant, en 2024, que ça aurait pu l'être il y a 20 ans, parce qu'on est beaucoup mieux équipés pour identifier les jeunes qui sont à risque.
Madame Maillé-Périal, je le rappelle, vous êtes présidente du Réseau québécois pour la réussite éducative au Québec. Et quand on parle de décrochage, c'est difficile de pas parler de cet écart entre les garçons et les filles. Et ça, c'est historique au Québec. Il y a un écart assez marqué dans le décrochage entre les garçons et les filles. Les garçons sont à 17,1 de décrochage, 13,8 pour les filles. Là, je cite les chiffres de 2020-2021, mais historiquement, ça disons que c'est dans les proportions. Qu'est-ce qui explique d'abord que les gars décrochent plus que les filles?
C'est une bien grande question que vous posez là. C'est un état de fait, puis le Québec est un peu différent de bien d'autres provinces à cet égard-là. Donc, cette réponse-là, très claire, elle l'explique, elle n'existe pas. Mais effectivement, nos garçons décrochent plus que les filles. Et quand ils sont décrocheurs, ben ils ont accès à des emplois bien mieux rémunérés que nos filles aussi. Parallèlement, donc c'est un autre paradoxe là de notre société peut-être là québécoise, mais on peut penser que les garçons cherchent leur place à l'école, mais qu'ils la trouvent de plus en plus parce qu'on a fait de grands gains au niveau là des garçons. Il y a une grande réduction quand même du décrochage scolaire des garçons, puis il s'est développé toute une programmation là périscolaire auprès des dans les écoles pour permettre aux garçons de s'engager dans des activités qu'ils aiment et qui va donner du sens là, à leur parcours scolaire, que ce soit par le sport, mais aussi par des projets éducatifs très concrets, là, très manuels, comme par exemple construire des robots ou de ce genre de projet-là.
Êtes-vous de l'école que l'école est, êtes-vous de l'école de pensée que l'école en général est peut-être un petit peu plate pour les gars?
Je pense que l'école en général est plate pour un bon nombre un groupe de nos jeunes, puis dans ce groupe-là, il y a des gars et des filles, monsieur Agassé, parce qu'il y en a aussi des filles qui n'aiment pas l'école puis qui trouvent ça plate.
Oui, mais elles sont moins nombreuses à décrocher.
Oui, effectivement, elles sont moins nombreuses à décrocher. Ça, je suis d'accord. Mais c'est souvent les stéréotypes sexuels aussi qui rentrent en ligne de jeu là, quand on arrive là. Moins on avance dans notre parcours scolaire, plus on est sensible aux stéréotypes. Puis ben les filles, ben c'est être calme, gentille, écoutée. C'est quand même ça encore le stéréotype féminin. Puis c'est peut-être une des raisons qui explique ça aussi. On sait que juste avant, les garçons ont beaucoup plus de comportements externalisés. Puis les filles, c'est beaucoup plus
d'intérêt. Ils sont plus turbulents.
Je dirais les filles dérangent moins.
Puis quoi, ceci explique cela?
Peut-être. Je pourrais pas dire que ceci explique cela. Je pense qu'il y a plusieurs chercheurs qui pourraient m'arracher la tête, mais je pense que quand on dérange plus, on a peut-être plus de confrontation avec l'école. Puis c'est là-dessus que tous les intervenants travaillent. Garder le lien, garder l'engagement scolaire. Puis de faire en sorte que les interventions ne mettent pas à mal la relation entre l'école et le jeune.
Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne semaine de la persévérance scolaire.
Merci, M. Lagacé.
À la prochaine. C'était André Maillé-Périard, elle est présidente du Réseau québécois pour la réussite éducative au Québec.
Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré.
Fadi Daguerre est le chef du service de police de la Ville de Montréal. Il est en studio. Monsieur Daguerre, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Donc, vous annoncez aujourd'hui des bonnes nouvelles. On a beaucoup parlé ces dernières années des décharges d'armes à feu, de fusillades, etc. Disons que ça a affecté le sentiment de sécurité des Montréalais. Et là, vous annoncez que l'année 2023, si on la compare à 2022, il y a eu une baisse des décharges d'armes à feu de 26%. Qu'est-ce qui explique ça?
Bon, c'est sûr que c'est multiple factoriel parce qu'il y a eu un travail policier acharné sur le terrain. Il y a un travail policier avec des partenaires provinciaux et autres polices municipales qu'on a travaillé tous ensemble. Mais il y a aussi le travail des enquêteurs extrêmement important. Mais les partenaires aussi, souvent, je parle de village, de prise en charge de la communauté envers des jeunes avant que ça dérape. Donc, on a eu des projets, je vais vous donner un exemple très rapide, avec des projets comme collectif, c'est un groupe de policiers, répression, prévention, renseignement, tous ensemble. Et lorsqu'on a arrêté l'individu qui était armé, rapidement, on prenait charge de la famille. la famille aussi en est victime de ce que leur fils fait. Le frère et la sœur observent ce qui se passe, puis rapidement, on a essayé de dissuader l'environnement, de dire, écoute, n'embarque pas comme ton frère, fais attention, reste de ce côté-là de la barrière. Donc, il y a eu plusieurs actions, autant répressives que préventives, de la part de la police, de la part des partenaires, qui a fait en sorte qu'il y ait une prise en charge. Mais, pour être franc avec vous, il y a une baisse au niveau des fusillades un peu partout au Canada. Donc, c'est pas juste attribuable à, c'est quoi la raison réelle? Je pourrais pas le dire, mais je pense qu'il y a une multitude de facteurs qui font en sorte que ça a baissé.
Dans le communiqué, vous parlez de dissuasion ciblée.
Oui, c'est celle-là.
C'est quoi?
C'est celle-là. Le projet collectif, c'est justement, exemple, Fadi Daguerre, c'est une personne qu'on sait qui fait des vols de véhicules. Bon, ben, on va aller le chercher, parce qu'on le sait qu'il est armé en plus. On va aller le chercher avant qu'il pose des actes. Puis le 5 avril et le 26 avril, j'étais chanceux, j'étais sur le terrain avec des frappes du SWAT. Et on est allé sur les lieux. Puis M. Lagacé, les jeunes qu'on a sortis dans le corridor du bloc appartement, 17 ans, 18 ans, 16 ans. Quand je les ai regardés, je n'en revenais pas que ces gens-là étaient armés avec plein d'argent dans l'appartement. Et c'est des gens qui étaient spécialisés dans le vol de véhicules.
Mais ça, c'est ce que vous m'évoquez là, c'est plus de la répression que de la dissuasion. Dans votre esprit, c'est quoi la différence entre dissuasion et répression?
Dissuasion, pour moi, c'est une partie de la répression. Une fois que j'ai fait ma répression, afin que j'ai pu avoir une certaine crédibilité pour la prévention, il faut que je fasse en sorte que je récupère l'entourage du jeune. Donc, dissuasion, c'est la partie répression. Mais aussi, une fois qu'elle est faite, qu'est-ce qu'on fait en prévention pour pas que ça se répète? Souvent, je parle dans mon discours de ce matin, on veut être une police proactive et intégrée. Proactif, faut pas réagir à tous les événements, mais plutôt les anticiper. Et intégrer, être extrêmement proche de toutes les populations pour sentir les fibrillations des communautés, l'émergence des problèmes. Mais quand vous parlez de dissuasif, c'est vraiment beaucoup plus dans la répression.
OK, vous l'avez dit un peu partout au Canada, là, il y a eu des baisses. Est-ce que votre feeling de policier, c'est quoi? Est-ce que c'est le début d'une tendance lourde ou c'est juste une accalmie avant la tempête? Parce que l'été s'en vient, là.
Franchement, je pourrais pas dire que c'est une tendance vers la baisse, vers la baisse en général. Non,
pas une tendance lourde.
Non. Ça a bien fonctionné en 2023. Qu'est-ce que on peut prévoir en 2024? On ne le sait pas. Mais, moi, je suis plus le genre de personne avec la direction. On s'entend les trois directeurs adjoints pour dire attention. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer en 2024. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais je préfère qu'on travaille tout sur le terrain avec les partenaires afin de dissuader les personnes. Même dans mon discours ce matin, j'ai mentionné la deuxième orientation, être rassurant envers les populations, mais être craint par le milieu criminel.
Oui, je vais y revenir là-dessus.
D'accord.
Ouais. OK. Parlons de recrutement.
Oui.
Il y a eu des problèmes de recrutement au SPVM. Il y a des années où on avait moins de policiers. Le solde total, quand on regardait les retraites, était négatif. Là, l'année passée, solde positif de 91 policiers, quand on prend en compte les retraites, les départs, etc. Qu'est-ce qui explique que, soudainement, le SPVM est peut-être redevenu attractif?
Il y a plusieurs facteurs. Premièrement, une volonté de la part du ministère de la Sécurité publique et de la Ville de Montréal de vraiment aider le SPVM à recruter plus en donnant plus de postes vacants à combler, premièrement. Deuxièmement, Nicolette, l'Académie de police, nous a réservé plus de places. Deuxième facteur. Le troisième est en lien aussi avec, la convention collective, l'a signée dans les 100 premiers jours, ça aide énormément.
Dans vos 100 premiers jours.
Dans vos premiers 100 jours comme directeur.
Puis,
sans moyen de pression, vraiment une négociation qui a été fructueuse des deux parts. Franchement, ça a beaucoup aidé pour l'atmosphère, pour être attractif. Et aussi, lorsqu'on a payé Nicolette, lorsqu'on a décidé de payer Nicolette à 10 000 $ du coup, on a demandé un contrat moral, puis un contrat signé.
Payer la formation, je m'excuse.
Un contrat signé avec les candidats de rester 5 ans à Montréal, parce qu'on avait un problème, oui, d'attraction, mais de rétention aussi. Puis, pour être franc avec vous, on a encore un problème de rétention. En 2022, nous avions 72 départs de démission. En 2023, on en a 62. Donc, il y a une petite amélioration, mais pas parfaite, là. Donc, il y a énormément de travail à faire là-dessus. Mais ce qui est encourageant, le SPVM est à nouveau attractif, est à nouveau intéressant. On a présentement, on sait qu'en juin 2024, ça c'est important de le retenir, on a plus de 150 à 170 CV de prêts. au-delà des 250 de prévu. Mmh. Donc, nous prévoyons avoir 430 recrutements, mais l'enjeu, puis Dieu sait qu'ils font leur possible, c'est qu'à l'Académie de police, il y a un nombre de places limitées. Mais les candidats, on les a. On espère ne pas les perdre. Puis on espère que les autres fonctions policières au Québec signent leur convention collective le plus loin possible. Non, mais c'est parce que je...
Pour que vous soyez haut de la liste des destinations.
C'est juste que je vais éviter que s'il y a des grandes conventions collectives qui se signent, je ne suis pas dupe, on peut risquer de perdre des personnes. Ouais.
Parce que la SQ est en négociation et présentement. Voilà. OK, dans vos orientations stratégiques, il y a trois axes, puis ça m'a surpris, OK? Premier, se mériter la confiance de la population, de toutes les populations de Montréal. C'est une phrase que vous avez souvent employée, Fadi Daguerre. Deux, être rassurant pour la population et craint du monde criminel. Trois, retrouver pleinement la capacité d'agir. Est-ce que le SPVM est craint par le SPVM? Pourquoi? Par les bandits? Pourquoi est-ce que vous avez senti le besoin d'inscrire ça, de mettre ça sur papier, que le SPVM doit être craint du monde criminel?
Mais je vais envoyer un message clair, premièrement, que je supporte fortement mes enquêteurs, mes enquêteurs sur le terrain. Faites votre travail. Jamais je vous arrêterai là-dessus. Au contraire, les opérations doivent rouler et doivent même se multiplier. Allez-y. Je vais vous raconter une petite histoire. Je suis allé un soir dans un bar, restaurant-bar, avec le groupe Eclipse. Je suis là en cobra. Je rentre là et il me dit, Monsieur Daguerre, regardez bien. Là, je rentre là, je veux monsieur et madame tout le monde qui sont là, dans un restaurant, bar normal. Et je vois tout un milieu criminel dans le même resto.
Puis vous avez reconnu des bandits.
Oui. Et là, ils me l'ont dit, il m'a dit, c'est telle personne. Puis il se peut qu'il y ait des armes ici. Mais je dis, voyons donc. Alors la phrase, elle est venue vraiment de là. Comment je peux être rassurant? On va, monsieur, madame, tout le monde est en train de souper ce soir, dans le même resto, là. Et comment je peux m'assurer d'éliminer les personnes, les criminels qui sont possiblement armés, les sortir de cette zone-là et laisser les gens, monsieur, madame, tout le monde, avoir un souper tranquille.
Mais monsieur Daguerre, si vous avez mis dans le plan stratégique, là, que l'SPM doit être craint du monde criminel, c'est parce que le monde criminel ne craint pas le SPM.
Mais
le craignait pas.
Non, honnêtement, j'avais pas cette idée en tête qu'on n'était pas craint. Mais je voulais juste marteler le message à mes confrères policiers et policières sur le terrain, ainsi qu'à les autres partenaires. Faut qu'on passe un message clair. Ils savent déjà...
Non, c'est quoi craindre la police?
Mais craindre la police, c'est savoir que tu oses toucher à des armes, tu oses penser à une décharge, tu oses provoquer et foncer vers un policier ou reculer vers un policier. Mais c'est sûr et certain. À un moment donné, on va t'attraper puis on va te traduire en justice. C'est convaincu qu'on va le faire.
OK, je vous amène d'abord, on reste sur le même terrain. Oui. Si vous l'avez fait mettre dans le plan stratégique, vous m'avez dit, c'était pour envoyer le message aux enquêteurs, aux policiers, etc.
Mais aussi au mode criminel aussi.
Est-ce que chez les policiers, dans vos premiers jours, il y a eu cette crainte que vous étiez un chef de police soft?
Oui. Mais je vais être très franc avec vous. Je suis connu et reconnu pour tout l'aspect de l'approche de proximité, tout l'aspect de l'approche de concertation, social. Tout ça. Puis, c'est mal connaître Fadi de penser qu'il n'est pas équilibré. À un moment donné, il y a une célèbre personne au Québec qui fait des dessins, M. Chaplot. Il m'a dessiné avec la main droite, dans mon étui avec des bonbons. Mais il sait pas que je suis ambidextre. Je tire de deux mains. Donc j'avais l'autre main l'équilibre. Et je suis un ancien agent double, un ancien enquêteur du crime organisé. Je suis capable d'être extrêmement ferme, extrêmement dur dans le milieu criminel. On a des informations où je sais qu'en 2024, on va travailler encore de manière plus approfondie, plus chirurgicale dans le milieu criminel. Et j'espère qu'en 2024-25, on va avoir des résultats probants envers des accusations prochainement.
OK, vous avez aussi parlé de maintenir la confiance avec la population, mais vous le dites souvent, les populations. Oui. Radio-Canada rapportait là, que vous êtes encore en réflexion sur l'écusson Thin Blue Line.
Oui, oui.
Thin Blue Line, là, c'est un écusson de ralliement des policiers et il y a des milieux militants qui voient ça comme un signe raciste. C'est une histoire compliquée, là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce que vous voyez ça comme un test de maintenir la confiance de la population?
Premièrement,
décision que vous allez prendre sur l'écusson.
Je vais revenir sur votre article.
Oui.
La patate chaude du chef de guerre.
Oui, parce que c'en est une.
Mais oui, c'en est une. Puis j'avais envie de vous dire, j'ai une casserole de patates chaudes. J'en ai plusieurs des patates chaudes dans ma casserole. Mais oui, c'en est une. Puis c'en est une. Puis elle est réelle dans le sens que d'un côté, vous l'avez bien décrit. Là, d'ailleurs, je veux pas vous envoyer des fleurs, mais l'article est vraiment excellent en termes d'historique. D'où ça vient, d'où ça part, où ça va. Les communautés, savez-vous quoi? On a fait la tournée. Les communautés, ce ne sont pas nécessairement dans l'interdiction nécessaire, mais surtout dans ne pas le porter.
Mais il y a des voix très, très fortes qui demandent à ce que ce soit interdit.
Mais pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a des corps de police au Canada qui l'ont interdit, et pourtant, leurs membres sur le terrain le portent. Et pourtant, j'ai des postes de quartier au SPVM qui ne l'ont pas interdit et les membres ne le portent pas. Donc, je suis en train de consulter. Alors, je rencontre toutes les recrues depuis le mois de mai, tous les différents groupes de policiers que j'aurai dans les postes de quartier, puis j'élabore et j'échange avec eux sur la neutralité et l'impartialité du port du signe. Ce que je peux vous promettre, c'est que c'est certain que d'ici l'été, nous allons prendre une position claire par rapport au port de Thin Blue Line envers les policiers du SPVM.
Toujours un plaisir de vous recevoir en studio. Merci, M. Daguerre. Bonne journée.
Merci.
C'était Fadi Daguerre, le chef du service de police de Montréal.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Société.
Tu nous fais une chronique où tu vas quoi? Donner des conseils aux gars en cette veille de Saint-Valentin?
Oui, puis non, là, pas tant. Puis j'ai demandé à mes amis MC et Catherine, qui connaissent un peu ma vie personnelle, d'être là pour commenter. Puis m'a challenger un peu.
Womanizer.
Non, pas du tout. Écoute, je vais définir le tout et on va démystifier tout ça ensemble. Parce que contrairement à toi, Pat, je parle de ma vie personnelle. Ah, je suis pas. Personne me prend au sérieux de toute façon, sauf quand je parle de sport. Donc on va pas trop se prendre au sérieux. C'est la Saint-Valentin demain, vous le savez tous. Je sais pas pourquoi tout le monde capote, parce que moi, j'ai déjà été en couple vraiment longtemps.
Oui. Un enfant.
J'ai un enfant, voilà. J'ai été en couple très longtemps dans ma vie.
Longtemps, voilà. Ça veut dire quoi, ça?
Ben, 9 ans. 9 ans.
Okay, puis, c'est pas pire.
Avec la même personne?
Avec la même personne. Et j'ai été 6 ans aussi avec une autre. J'ai quand même été en couple assez longtemps.
On connaît pas ce micro-là.
Puis la Saint-Valentin, ben, c'est pas si hot que ça. Même quand t'es en couple, en fait, surtout quand t'es en couple, parce que je vous écoutais parler un petit peu plus tôt, Catherine, Pat et MC. Les attentes, non, mais les attentes envers Monsieur Beauchamp par rapport à la Saint-Valentin, ça m'a brisé le cœur. Les gars, vous m'avez rassuré, merci, vous résistez à ça. Ceci dit, je vais pas juger Catherine et toutes les femmes et leurs attentes, parce que ça aussi c'est un autre problème dont on va parler plus tard. J'aimerais quand même essayer d'aider les gens qui veulent pas être seuls le 14 février 2025. Puis comme on est en 2024, la plupart des gens se rencontrent sur Internet, sur les applications de rencontres. Vous savez, je suis célibataire, je vous en ai parlé. Mais j'ai aussi travaillé sur une application de dating il y a plusieurs années quand j'étais en marketing web. Donc, ça fait de moi, je pense, un expert. Okay. Jusque-là, je vais essayer de vous aider. Donc, premier conseil, et là, je vais commencer par les gars. Après ça, je vais donner mes red flags pour les filles, comme on dit, les drapeaux rouges. Okay? Premier conseil pour les gars, cruiser dans la vraie vie. Premier conseil, évitez les réseaux sociaux. Apprenez à cruiser,
un
à
bon
être charmant.
Vieux contact humain, là.
Voilà, comme le docteur
devant
généreux.
Devant le comptoir du bœuf haché.
La question, c'est où? Les gens sortent plus.
Écoute, après, ça, c'est ce sera pour une autre chronique. Mais juste, apprenez à le faire dans un party.
D'amis. La dernière fois que tu as cruisé en vrai, c'était où?
Dans le corridor, il y a 2 minutes, pauvre-toi.
Merci. Pas il y a 2 minutes, mais au travail, ça m'est arrivé.
Ah oui, d'ailleurs, on a le droit de faire ça.
Oui, et je vais me contredire, ne jamais dater quelqu'un du travail. Faut pas.
Jamais?
Mais vous pouvez vous pratiquer, puis charmer, sourire, être gentil. Okay. Deuxième conseil.
Je note.
Non, mais soyez fin. On sous-estime à quel point c'est le fun être gentil pour soi, mais pour les autres aussi.
Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit de gentillesse chez les garçons.
Il y a un déficit de gentillesse chez les gens en général. Okay. Et c'est charmant. Quelqu'un de gentil. Puis je dis pas être gentil avec les femmes, les personnes de l'autre sexe. En passant, parenthèse, là, je suis jeune woke, fait qu'il faut que je fasse, comme on dit, un disclaimer. Ce sera une chronique hétéronormative. Bah. Parce que je suis un expert dans mon domaine.
Okay? T'es du Québec.
Fait que voilà. Non, mais dans le sens où vous pouvez cruiser qui vous voulez, mais moi, je veux parler les gars envers les filles. Donc, soyez gentil, pas juste avec les filles, avec les gars aussi, parce que ça déteint sur vous, ça déteint sur les autres. Et il n'y a rien de mieux pour votre réputation que quelqu'un dise MC, il est comment? Ah, il est tellement fin, il est fin avec tout le monde, c'est un fin parmi les fins.
C'est vrai.
On m'a déjà engagé en me disant ça. J'ai demandé pourquoi vous m'engagez? Ben, parce que tu as la réputation d'être un fin parmi les fins. Je suis là. Ma mère va être fière.
Cool.
Autre conseil, traitez les filles comme vous aimeriez qu'on vous traite.
Ben oui.
Comme vous aimeriez qu'on traite votre fille, votre mère, votre sœur, votre cousine, votre amie.
Ou vous-même, si vous êtes une fille.
J'ai commencé par vous-même.
Je sais bien.
Donc, quand je dis être fin, c'est ça. Le respect, c'est des petits détails, des petites niaiseries, mais juste être gentil, ouvrir la porte, des choses comme ça.
Des meringues.
Des meringues. Moi, je suis d'accord que les meringues.
Payer l'addition.
Je l'ai mis sur ma liste, payer l'addition. Il y a un gros débat là-dessus. Payer l'addition, pas parce que c'est la norme, puis parce qu'il faut le faire, puis parce que vous êtes un gars, puis juste parce que c'est gentil. Puis qui va refuser qu'on te paye un repas?
Est-ce que je peux répondre?
Vas-y.
Personne.
Voilà. Ouais. Autre chose, soyez, et ça c'est probablement le conseil le plus honnête, le plus important que je peux vous donner, les gars, soyez clairs et surtout honnêtes sur vos intentions.
OK.
Et le sous-texte,
ça,
le sous-titre...
c'est pas mal, sérieusement, non. Dans tout ce que tu dis, c'est pas mal la chose la plus importante.
Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit c'est
mais
plus
attends,
important.
Ça veut dire, mettons, je veux trois enfants dans les trois prochaines
non,
années.
Non, écoute, MC, tu vas comprendre parce que c'est grave ce que je veux dire.
Vas-y.
Si vous voulez pas de blonde,
ouais,
là,
dites-le.
Mais clairement... Parce que, et ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est assez incroyable ce qu'une femme ou une fille peut accepter si vous lui dites la vérité dès le départ.
C'est ce que tu fais d'ailleurs, pour vrai. Là.
Voilà, je veux pas de blonde, je veux pas d'enfant, puis écoute, ça va bien ma vie.
Ben oui.
Et ça marche, et voilà. Alors ça, c'est le conseil le plus important.
Est-ce que tu peux élaborer sur ça va bien ma vie?
Ma vie va bien,
moi,
je suis
ça
heureux.
Marche.
Non, mais non, mais c'est parce que c'est une question de respect, puis je pense qu'on sous-estime ça aussi auprès des gars. Tu sais, on regarde ça beaucoup dans la performance. Ah, je veux dater des filles, je veux voir des filles. Oui, tu peux faire ça, mais tu peux le faire dans le respect, en étant gentil puis en disant clairement. Et ça, les femmes vont l'apprécier. Et un dernier conseil pour les gars, parce qu'après ça, j'ai une longue liste, je vais te faire une autre chronique là-dessus.
Okay.
Non, avant de passer aux filles, les filles, ça va être rapide. Je répète, OK, utilisez votre gros bon sens, OK, dans vos relations. Okay. Et si vous n'avez pas de gros bon sens, demandez à une amie, je le répète, demandez à une amie. Parce que l'expérience sur les réseaux sociaux, les applications des gars et des filles est complètement différente. Ouais. Si vous avez des conseils des filles, vous allez comprendre qu'est-ce qui est important pour elles et quoi éviter.
T'es un peu le poilièvre du dating, toi?
Non, pas pantoute.
Ben, le gros bon sens.
Oui, mais le gros bon sens, c'est galvaudé, mais c'est important de demander aux filles. OK, pour les filles maintenant.
T'as des drapeaux rouges.
Oui.
À signaler aux filles.
Non, des drapeaux rouges, signaler aux gars par rapport aux filles. Donc, les filles, des choses à éviter sur les applications de rencontre. En tout cas, pour moi, OK? Ça, c'est ma liste très personnelle et pas exhaustive. Premier, red flag. Des références à Harry Potter sur votre profil. Je m'excuse, là. Il n'y a pas un gars hétéro qui se respecte, qui va apprécier des références de Harry Potter sur le profil d'une fille. Swipe à gauche. Deuxième red flag.
C'est vrai.
Là, c'est parce que j'ai été gentil. Il faut aussi mettre la ligne quelque part. Deuxième conseil. S'il y a une autre fille ou d'autres filles sur la première photo que tu vois, il y a plusieurs filles. Tu sais pas c'est laquelle. Puis t'es mêlé. T'es comme, puis c'est rarement celle que t'aimerais que ce soit qui est la fille sur le profil. À éviter, mesdames. Troisièmement, c'est écrit « I'm probably out of your league » dans la description. Je suis hors de ta ligue. Genre, je suis trop hot pour toi. Ben, pourquoi t'es là d'abord? Va-t'en, puis laisse-nous tranquilles entre nous autres.
Ça existe.
Oui, c'est toutes des choses que j'ai vues, moi. Je peux vous donner des captures d'écran. Ça, c'est comme non. T'es hautaine, on n'aime pas ça. Autre chose, les filtres sur les photos, c'est non. On aimerait ça voir le vrai visage parce que c'est le fun que tu te ressembles. Comme moi, j'aimerais ça que tu trouves que je me ressemble, qu'on se rencontre. Autre chose à éviter... Une pause avec un sac à main de luxe ou une voiture de luxe? Non.
Ah non?
Non, c'est juste non.
Ben, en fait,
comme les gars avec des poissons ou les gars devant leur BM, là, c'est non.
Je te soumettrais que la fille signale ses intentions. Il n'y a pas de surprise.
Oui, mais c'est non pareil.
Mais elles aussi, elles doivent être claires. Si tu veux un gars avec du cash, dis-le.
Et voilà, il faut être honnête.
Voilà.
Moi, je te dis ce que j'évite, OK? Autre red flag pour moi, elle aime le camping. C'est non aussi. Et trois choses rapidement. Quand elle dit qu'elle se voit comme la maman de son chien ou de son animal, ça, c'est vraiment insultant pour les gens qui ont des enfants. T'es pas la maman de ton chien, OK? Et aucun sourire sur aucune photo. Ça, c'est à éviter, c'est dommage. Tu veux charmer un minimum de sourire, gentillesse et rayonnement. Et dernièrement, si la fille parle d'astrologie sur son profil, c'est terminé. Alors, vous pouvez me joindre sur Instagram, à commercial, Meeker Guerrier, M-E-E-K-E-R, Guerrier, comme ça s'entend.
J'ai 15 secondes, juste pour dire à quel point Meeker un jour m'a raconté qu'il a amené une date sur un bateau en France, à Paris. Il l'a amené sur la Seine pour le coucher de soleil.
Okay. Ouais.
Ça, là, ça fonctionne. Faites des grands gestes héroïques de
même.
Mais
attends. Et cette fille nous écoute en ce moment et ça a été la meilleure date de ma vie.
T'es pas mal chanceuse.
C'est la meilleure date de sa vie. Et on n'est pas en couple, imagine. On est juste amis.
C'était la chronique de Casanova. Guerrier.
Wow.
Ça me fait plaisir, les amis.
Collaborateur régulier. Merci, Maker.
Je reviendrai avec une autre chronique.
Il y a 3 points. La vie.
Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré.
Je résume l'enjeu du 0.08. Vous savez, c'est quoi 0.08? C'est quand on a 0.08 millilitres d'alcool par 100 grammes de sang, là, je pense. Peut-être que je me trompe, là. Mais, 0.08 grammes d'alcool par 100 millilitres de sang. C'est la limite légale. C'est la limite qui vous sépare d'une infraction criminelle. Le 0.08 relève du fédéral. Les provinces au Canada ont décidé qu'il y aurait, à partir de 0.05, des mesures administratives pour envoyer le signal que, écoutez, au-delà de 0.04, là, vous êtes quand même en zone dangereuse et la société veut vous le signifier. Donc, Ontario, Manitoba, Colombie-Britannique, Alberta, partout au Canada, il y a des mesures administratives qui peuvent impliquer la suspension temporaire du permis de conduire, la mise à la fourrière du véhicule, des trucs comme ça pour envoyer ce signal-là. Seule province à ne pas avoir de gradation à partir de 0.05, vous avez deviné, c'est le Québec. Là, on est dans un troisième débat en quelques années, c'est-à-dire plusieurs années. 2007, on en a eu un premier. 2010, les libéraux, les deux fois, ont refusé de faire ce pas-là. Des sanctions administratives. La ministre Geneviève Guilbeault porte présentement un projet de loi qui veut implanter tout plein de mesures qui sont bonnes, bien souvent, pour améliorer le bilan de sécurité routière au Québec, qui est en train de se détériorer. Le 0.05 ne fait pas partie de ce qu'elle veut étudier. Et aujourd'hui, on a appris que la CAQ avait fermé la porte à double tour là-dessus. Il n'y aura pas de mesure administrative à partir de 2005. La semaine passée, cet enjeu-là est venu sur la scène publique. Pourquoi? Parce que un couple endeuillé, Elisabeth Rivera et Antoine Bittard, qui ont perdu leur fille dans un accident de la route causé par un chauffeur récidiviste de l'alcool, ben ils avaient été forcés de payer 100$ pour aller dans un fameux cocktail de financement pour parler à Mme Geneviève Guilbeault. On va aller sur le fond de l'enjeu avec Antoine Bittard immédiatement. Il est le père de Jessica, décédé, des suites d'une collision il y a quelques années. Monsieur Bittard, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
D'abord, pourquoi vous faites le combat, la croisade du 0.05?
Ben, pour sauver des vies. On a tous les chiffres qui prouvent que ça sauve des vies. Qui, dans sa vie, peut pas dire qu'il a sauvé des vies? Moi, je veux pouvoir, avec ma femme, dire que grâce à Jessica, la mort de Jessica, quelque chose de bien tourné, qu'on avise qu'il y a une facilité pour le gouvernement de sauver nombre exponentiel de vies. C'est aussi simple que ça.
Est-ce qu'on a des statistiques? Parce que on a des statistiques qui sont très fines sur le nombre d'accidents qui sont causés par l'alcool au volant. Mais l'alcool au volant, dans la définition des statistiques, c'est 0.08. Est-ce qu'on a une idée de ce qui est causé comme accident par des gens qui sont de 0.04 à 0.08, par exemple?
Ça se pourrait. Je vais être franc avec vous. Moi, je ne les aurais pas. Parce que quand on fait les études, généralement, on nous dit toujours descendre en bas du 0.08. Et ce qu'on j'ai appris aussi, c'est que si une personne se tue en voiture, ça se peut qu'il n'y ait pas d'analyse de son sang. Parce qu'il n'y aura pas de poursuite, il n'y aura rien. Fait que cette personne-là est peut-être morte. Alors, c'est peut-être que, justement, en haut de 0.0, peut-être même à 0.4, à 0.5, si quelqu'un décède dans sa voiture, est-ce que le gouvernement fait une étude pour voir si la personne est intoxiquée? Je pourrais pas vous le dire.
OK. Pourquoi votre combat, c'est 0.05 et pas 0.06 ou 0.07, M. Bittard?
Ben, écoutez, toutes les provinces le font à 0.05, à part la Saskatchewan à 0.04. On a des données probantes. On a des recommandations d'organismes reconnus. On va pas essayer de compliquer quelque chose qui fonctionne déjà à 0.05 et dont on a les chiffres.
Comment vous avez réagi aujourd'hui en entendant l'argument de la CAQ qui veut pas imposer des mesures administratives à partir de 0.05 en disant, écoutez, ça punirait les gens des régions?
Écoutez, tout le monde peut mourir demain matin ou avoir quelqu'un qui meurt d'une collision avec les facultés affaiblies. Je pense que ces gens-là peuvent le comprendre facilement. Je pense que c'est peut-être parce qu'ils veulent se protéger de quelque chose, la CAQ, je ne le saurais pas. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne le fassent pas. Je pense même que tout le monde s'en pose la question à Mme Guilbeault, personne ne comprend ses raisons. Elle ne répond pas nécessairement directement.
Quand vous lui avez posé la question très rapidement dans un cocktail de financement, Mme Guilbeault, quand vous avez abordé cet enjeu-là, racontez-nous ce qu'elle vous a répondu.
Ben, écoutez, elle nous a écoutés. Elle n'a pas répondu beaucoup parce que je pense que ça l'a un petit peu surpris. parce qu'on lui a expliqué notre cas et tout. Et à la même, à un certain moment, je lui ai dit carrément, en vous disant non, vous êtes en train de dire que la mort de ma fille, les autres victimes et les prochaines ne sont pas importants pour votre gouvernement ni pour vous. Et je pense que là-dessus, moi, j'ai arrêté ma discussion. Je sais que ma femme, elle parlait avec elle par après, en lui expliquant l'importance de la chose. Je n'ai pas entendu la fin de la discussion, parce que je vais être franc avec vous, on commence à me tirer un petit peu le bras pour me dire, bon...
Vos deux minutes sont écoulées.
Techniquement, à peu près, oui.
Parfait. Merci d'avoir été avec nous, M. Bittard. Je souhaite une bonne journée.
Plaisir. Merci beaucoup.
Antoine Bittard est le père de Jessica, décédé des suites d'une collision provoquée par un récidiviste de l'alcool au volant. Je me tourne maintenant vers Moncef Deragy. Il est porte-parole en matière de transport et de mobilité durable pour le Parti libéral du Québec. C'est lui qui porte à l'Assemblée nationale ce dossier-là du point 05. Monsieur Deragy, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Lagacé.
Donc hier, vous espériez avoir un vote là pour que chacun des députés de la CAQ puisse afficher ses couleurs là-dessus. C'est pas ce qui est arrivé.
Ils vont l'afficher demain matin, à partir de 11h, on va savoir est-ce que les caquistes vont être du côté de la science et des recommandations du coroner et de CA Québec, et suivre un peu ce qui se passe dans les autres provinces canadiennes. Donc demain, on va savoir est-ce que vous votez clairement pour la motion ou contre la motion.
Mais c'est assez clair de ce qui a filtré, M. Deragy, là, que la CAQ voit ça comme un enjeu de parti. Là. Pas sûr qu'il va y avoir des moutons noirs là-dessus demain, là.
Oui, vous avez raison, mais vous savez que M. Legault a changé d'avis à plusieurs reprises sur le troisième lien, sur plusieurs aspects. J'espère que la nuit va aider M. Legault, surtout qu'il s'est basé beaucoup sur les études scientifiques pendant la pandémie. Il a devant lui maintenant une responsabilité énorme en tant que bon père de famille de suivre les recommandations de la santé publique, de l'Institut de santé publique. Et vous avez posé une très bonne question à M. Bittard tout à l'heure sur les résultats. Aujourd'hui, ce que les gens doivent comprendre, que si on a un taux d'alcool entre 0.05 et 0.08, le risque d'accident mortel est multiplié par 6. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui au Parti libéral, c'est soyons tous solidaires pour sauver des vies. Et si on veut diminuer le risque de collision mortelle, c'est en baissant le seuil à 0.05. Parce qu'en Colombie-Britannique, ils ont implanté des mesures administratives. Vous avez très bien dit dans votre chronique aujourd'hui que ce n'est pas des mesures du code criminel. Et vous savez quoi? Ils ont réussi de baisser le risque de collision mortelle de 52%.
Donc, OK, pour l'exemple de la Colombie-Britannique, ce qu'on voit, c'est que quand on abaisse le taux à 0.05, y a un effet quoi sur tous les conducteurs?
Absolument. C'est parce que ils sont allés avec une escalade, si je peux dire. Première fois, deuxième, troisième, quatrième fois. Donc, on est très, très loin du criminel. Donc, le climat de prévention, je ne vous apprends rien, la prévention en santé publique est extrêmement important. Ça joue un élément de motivation et dire, on n'est pas contre l'alcool. On est contre l'alcool au volant parce que ça pourrait être votre fille, votre femme, votre garçon, vous-même, un voisin, une voisine. Donc, ça pousse les gens à être beaucoup plus responsables. Et ça, toutes les provinces canadiennes nous l'ont démontré. En agissant de sorte, ils ont pu réduire le risque de collision mortelle dans leur province.
La CAQ invoque le fait que le Québec, c'est un pays de région et qu'il n'y a pas de transport en commun en région, donc ça punirait les gens des régions. Écoutez, y a-t-il des régions ailleurs au Canada?
Une bonne question, Saskatchewan. Et vous savez, ce gouvernement, qui ça fait quand même 6 ans qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait pour améliorer le transport en commun en région? Et la question se pose, le Saskatchewan, Manitoba, l'Alberta même, Colombie-Britannique, je pense que nous sommes tous, nous avons presque le même territoire, le territoire est immense et grand, mais cet argument ne tient pas la route parce qu'une vie humaine est une vie précieuse, on doit tous travailler pour agir sur les accidents mortels. Et comment agir? C'est baisser le seuil à 0.05.
Merci d'avoir été avec nous, M. Deragy, on aura l'occasion de s'en reparler.
Merci beaucoup, M. Lagacé.
Bonne journée. Moncef Deragy, qui est du Parti libéral du Québec.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Il y a des milliers de Québécois qui sont en attente d'une chirurgie. Des chirurgies qu'on dit non urgentes. Ça veut dire que votre vie est pas en danger. Ce qui veut pas dire que vous êtes pas en train de souffrir le martyr non plus. Et en mai dernier, le gouvernement a présenté un plan de rattrapage en chirurgie avec une enveloppe de 400 millions de dollars là, pour mobiliser les équipes, pour mobiliser le personnel. 9 mois plus tard, ben, on constate que, selon toute vraisemblance, le plan ne fonctionne pas. On en parle avec Dr. Serge Legault, vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Dr. Legault, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
D'abord, il y a combien de patients là, exactement sur les listes d'attente présentement?
Au total, il y en a 166 502. C'est la dernière statistique du ministère. Et puis, de cela, 13 399 qui attendent depuis plus qu'un an.
OK. Donc, quand on dit la fameuse statistique du 13 000, c'est parce qu'ils sont sur la liste depuis 12 mois et plus.
Exact.
Pourquoi est-ce que il y avait ce plan de rattrapage de 400 millions? Comment ça fait que ça fonctionne pas?
Ben, pour être très honnête avec vous, M. Legacy, je ne sais pas si ça fonctionne pas. Il n'a jamais été mis en place. Nous, on prétend que ça va fonctionner si on est capable de mettre le plan en place. Si vous me permettez, je peux vous l'expliquer. C'est très, oui. très, très rapide. Le plan, c'est deux choses. Le plan, c'est de prévoir terminer les programmes opératoires. Trop souvent, au Québec, on annule le dernier cas pour toutes sortes de raisons. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Mm-hmm. La deuxième partie du plan, c'est de dégager des espaces et des locaux, de trouver des équipes pour opérer ces patients-là dans des heures inhabituelles, de 5 heures à 8 heures en journée de semaine ou durant la fin de semaine. Ce plan-là est sur une base volontaire. Ça aussi, c'est super important.
Vous venez de me dire, là, il y a un problème au Québec avec annuler le dernier cas. Puis je lisais là d'autres déclarations que vous avez faites de vos collègues aussi. Quand on sait que ça va se finir après 15-16 heures, une opération, on annule. Pourquoi?
Ben, pour toutes sortes de raisons. En fait, de façon classique, là, les blocs opératoires sont ouverts de 8 à 4.
Okay.
Donc, les corps de travail prévoient une présence infirmière, une présence des équipes chirurgicales de 8 à 4. Donc, dans la confection du programme opératoire, on s'arrange pour mettre des cas qui vont finir à 4 heures. Le danger, c'est que pendant la journée, il y a des imprévus. La chirurgie, la première chirurgie de la journée dure trop longtemps. Il y a un saignement imprévu. Il y a un patient à l'urgence qui doit être opéré et inséré dans un programme entre deux patients. Il y a un patient qui se présente pas. Le programme est chamboulé pour toutes sortes d'autres raisons. C'est pour ça que des fois, le programme dépasse. Des fois, ça arrive aussi que pour des raisons logistiques, tout le monde est en place, là. Il est 3 heures de l'après-midi, mais quand on regarde le temps moyen de l'opération, ça risque de finir à 4h15, 4h20, puis là, on prend la décision d'envoyer le patient puis de le retourner chez lui. Cette vieille habitude-là, qui est en place depuis pas mal longtemps, cette habitude-là, on doit la renverser. Puis avec le plan, si on était capable d'éviter ces annulations-là, on pense que on serait moins dans le pétrin avec les chiffres qu'on a présentement.
OK. Donc, plutôt que de dépasser de 15-20 minutes, on annule la chirurgie.
Oui.
Le mot qui me vient à l'esprit, c'est niaiseux.
Oui, ben, je peux pas vous contredire, là, M. Lagacé.
Mais qu'est-ce qui explique ça? Vous êtes dans les hôpitaux depuis toujours, Dr. Legault. Qu'est-ce qui explique cette culture-là de, regarde, comme ça va déborder de 15-20 minutes après l'heure X, on va annuler, on va renvoyer le patient chez eux. Je trouve ça cruel, mais je trouve ça contre-productif aussi. Y a-t-il quelque chose qui explique ça?
Ben, c'est les deux. C'est cette habitude-là qu'on a pris au Québec depuis fort longtemps. Vous savez, la mode du temps supplémentaire obligatoire, là, on en a entendu parler. Puis nous, on pense que c'est catastrophique pour les équipes de soins de forcer les gens à rester en place pour toutes sortes de raisons, là, okay, qui peuvent apparaître des raisons humaines pour bien du monde. On soigne des patients, là, tu sais, on n'est pas dans une usine à saucisses, là, ok. Mais de forcer les gens à rester, c'est aussi ça, de dire, ben regarde, t'es censé finir à 4 heures, t'as une famille, t'as des enfants en garderie, là, on aimerait ça que tu restes jusqu'à 5 heures. Ça se demande, ça. Puis je peux comprendre les équipes de soins qui, constamment, se font demander d'être là à des heures qui n'étaient pas prévues, de dire, assez, c'est assez. Ça peut être ça, là.
OK, mais regardez, dans ce que vous me décrivez là, c'est pas qu'on te demande de faire 3 heures, 4 heures de plus. On te demande de t'étirer moins d'une demi-heure au-delà de ce qui était prévu pour pouvoir passer quelqu'un. À l'échelle du Québec, j'imagine que chaque jour, c'est des dizaines de personnes. Qui fait le call de non, on fait pas l'opération parce que on va déborder de 15-20 minutes? C'est qui la personne? C'est-tu le chirurgien? C'est-tu l'infirmière? C'est-tu la direction de l'hôpital? Qui fait ce call-là?
C'est l'équipe de coordination, là.
Okay? C'est vaste, ça.
Non, ben, l'équipe de coordination, là, c'est souvent l'infirmière chef, l'anesthésiste en chef, le chirurgien en chef, qui sont de garde pour ça cette journée-là, qui prennent la décision. Tu sais, de la part des chirurgiens et des anesthésistes, quand on dit on annule le dernier cas, il n'y a personne qui est content de ça, là. Puis je veux pas jeter le blâme sur d'autres parties de l'équipe de soins, là, OK? Cette vieille coutume-là de faire, OK, on prétend qu'elle doit changer. Et c'est pour ça qu'on demande au ministère, dans son tableau de bord quotidien, de nous indiquer précisément combien de cas s'annulent. Parce que si on est au courant de la statistique, puis au courant de la piètre performance de la fin des programmes, ben on se dit, les humains étant les humains, ils vont essayer de corriger leurs erreurs puis leurs vieilles habitudes. Puis si les hôpitaux étaient capables de se comparer les uns aux autres, il n'y a personne qui veut être dernier de classe.
Ben, ouais, vous trouvez que ça ferait une différence? Savoir que l'hôpital A a une meilleure performance dans les dernières chirurgies que l'hôpital B, vous pensez que vraiment, là, les gens de l'hôpital B vont dire, mon honneur professionnel est en jeu, puis nous autres, on va s'étirer?
Moi, je fais le pari que oui.
OK.
Puis je fais le pari que oui. Il y a personne qui va être dernier de classe. Mais en même temps, puis tu sais, ça a l'air contradictoire, mais propos, on veut que ça soit volontaire que les gens restent. Tu sais, je veux pas m'immiscer dans les conditions de pratique des infirmières qui sont déjà pas bonnes, puis je veux pas m'immiscer aussi dans leur négociation. Mais on prétend que le 400 millions qui a été réservé pour ça, si on était capable de fournir un peu plus d'argent de façon systématique aux gens qui on demande de rester alors que théoriquement leur journée est finie, ben ça peut pas nuire, là.
OK. Okay?
L'argent règle pas tout, M. Lagacé, on en convient, là. Mm-hmm. Mais c'est mieux que de dire tu restes puis t'as pas d'autre compensation que de rester à titre.
Je vais vous talonner un peu tantôt. Vous m'avez dit que c'était les équipes de soins. Je sais pas quelle expression vous avez utilisée quand je vous ai demandé qui fait le call. À la fin, là, la personne qui décide d'annuler, vrai pas vrai, c'est l'infirmière.
Non.
Non? Pas elle qui a le doigt sur le piton?
Ben, c'est l'infirmière du bloc opératoire qui l'assistante infirmière-chef du bloc opératoire qui vient dans la salle, mettons, à 3 heures, me dit, ben, va falloir annuler ton dernier cas, Dr. Legault, parce que ça va dépasser. Tu sais, cette habitude-là, là, c'est une habitude qui est là depuis longtemps. Est-ce que c'est la faute de l'infirmière? La réponse, c'est non. On est tous un peu responsables de ça, là. OK? Puis, comme on dit, c'est une chose qu'on veut changer. Mais les changements en santé, ça prend du temps. Puis je pense qu'il faut, dans l'état des choses, regarder les choses de façon franche, puis dire qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux faire. Si on pouvait, OK, avoir une politique d'annulation zéro, puis ça pourra jamais être zéro annulation, il y a des affaires qu'on peut absolument pas changer. Mais si on s'attaquait à cette habitude-là, qui est une mauvaise habitude, on en convient, ben il y aurait moins de patients qui resteraient plus longtemps sur la liste. C'est pareil comme si je mettais de l'argent dans un compte d'épargne puis je ne réglais pas ma dette. C'est exactement la même chose.
Non, mais docteur Legault, tu sais, je sais que c'est pas de votre faute à vous personnellement là, mais quand il y a une urgence, je comprends, quand il y a une complication puis qu'il y a un effet domino, puis que, écoute, plutôt que de t'opérer à 2 heures, on t'opérerait à 6 heures. Je comprends que ça taxe le personnel. Là, vous me dites qu'il y a plusieurs chirurgies annulées pour des questions de 20-25 minutes. Oui. Entre ça, puis te faire imposer un chiffre de 8 heures de plus, là, je trouve que... J'ai l'impression... Je suis désolé, mais je trouve qu'il y a un peu de zèle. Mais peut-être que je sais pas tout.
Ben, c'est pas une question de tout savoir. C'est une question que des fois, cette vilaine habitude-là qu'on a pris, tu sais, on l'a pris puis il faut la changer. On peut pas la changer en disant c'est terminé, on arrête de faire ça, là. Mais tu sais, je veux pas pointer du doigt tel ou tel individu. C'est des décisions qui sont prises ensemble, là. C'est pas vrai que c'est la responsabilité d'annuler les cas ne revient qu'à l'infirmière-chef, là. OK?
OK.
Tu sais, les infirmières fonctionnent avec les directives. les équipes de soins, c'est ceux qui accomplissent les soins. Mais à un certain moment donné, il y a aussi du leadership des équipes plus haut en disant on devrait s'attaquer à ce problème-là. Là, le ministre Dubé dit on demande aux équipes de soins de rester puis de d'essayer de pas annuler le dernier cas. Ça fait 9 mois qu'on dit ça. Pourquoi le message n'a pas descendu de haut en bas? Ben, c'est une question c'est une question qu'il faut poser peut-être aux bonnes personnes.
Merci, Dr. Legault. Bonne soirée.
Allez.
À la prochaine. Serge Legault, vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.